exploitée dans un bâtiment qui est un HLM? Pourquoi j'ai une augmentation de 20 euros? Pourquoi il n'y a pas de justification de la part de mon bailleur, qui est un bailleur social privé, collecteur du 1% patronal? Et pourquoi ce bailleur me menace pour ces simplement 20 euros que je ne règle pas par mois, parce qu'en fait je règle le reste à payer et mon bailleur reçoit le reste de mon allocation logement? Pourquoi ces 20 euros simplement me valent un avis d'huissier avec peut-être saisie ou expulsion? Mais je pense que c'était pas très glamour, c'est vrai, il y en a marre en fait de ces gens comme moi qui sont vraiment au bas de l'échelle. Donc on a préféré passer le brave auditeur des Hautes-Alpes, qui a déjà appelé deux fois, hein, de sa campagne, qui était bien sympa, qui a fait rigoler tout le monde, que même Madame Dufio s'est souvenue de lui, et puis aussi ce pauvre proprio dont on a passé le message, parce que depuis 2 ans, il n'arrive pas à expulser des gens qui relèvent, je crois, du droit opposable au logement. Ah ben tiens, finalement, ça c'est peut-être une chose à faire. Peut-être que moi aussi, j'y ai droit au droit opposable. Si mon bailleur social privé HLM veut m'expulser. Allez, salut, bonne année à tous.
L'avantage de Dieudonné, c'est que au moins depuis une semaine, on n'entend plus parler d'un certain nombre de sujets avec lesquels on martèle le cerveau jour après jour. C'est ce que j'étais en train de me dire hier matin. Et puis, j'ai allumé la radio. Et là, grand ange, l'écart se creuse encore entre la France et l'Allemagne. Eh oui, une semaine de tranquillité et le modèle allemand est de retour.
Bonjour, Madame Blandin, Montigny-Bretonneux. Voilà, je viens d'écouter l'émission et alors là, j'avoue que je tombe des nues. Je ne savais pas que mes impôts servaient à donner des indemnisations aux journaux. Alors, entre autres, journal de M. Dassault, je suis complètement stupéfaite et je me demande si il ne va pas falloir qu'on arrête de payer nos impôts, parce que subvenir à des journaux des gens qui sont milliardaires, c'est vraiment trop. Et alors, quand on dit qu'on a un gouvernement de gauche, on se demande ce qu'il fabrique. Hein. Ça, vraiment... Bon, allez, je vous souhaite quand même une bonne journée. Je continue à vaquer à mes occupations et j'arrête de m'énerver. Bonne journée, au revoir.
Vous entendez le brouhaha des armées de journalistes qui ont des avis autorisés, comme disait Coluche, sur les frasques du président Hollande. Mais avez-vous entendu les mêmes cris d'orfraie sur le projet de loi scélérate qui supprimerait le droit de recours judiciaire aux salariés dans le cas des licenciements boursiers? C'est le silence radio, comme sur tant d'autres sujets qui mériteraient de l'information digne de ce nom. Merci au Diplo d'être encore là, envers et contre tout. C'est Noël de Nantes.
Monsieur là-bas, si j'y suis, j'aime beaucoup vos émissions, mais permettez-moi de vous dire que vous ne respectez même pas les règles de votre émission. Le premier intervenant des appels du 13 janvier a parlé plus de 2 minutes. Mais comme il dit ce que vous voudriez dire, mais que vous n'osez pas dire, c'est-à-dire beaucoup d'empathie pour monsieur blablabla Dieudonné, vous le laissez parler plus de 2 minutes. Le deuxième auditeur, je suis contre cet abruti de blablabla, mais je suis antisioniste, dit-il. Quant à Alimi du monde diplomatique, qui parle comme Madame Soleil malgré ses grands airs d'intello, est-ce que monsieur blablabla je pense que monsieur blablabla le mettra dans les fours quand l'hiver fut venu. Vous annoncez l'émission sur Sharon et avant de commencer, vous le traitez de criminel. Vous vous battriez, tel Voltaire, pour que l'autre puisse exprimer ses idées. Le ferez-vous pour Sharon, puisque vous allez le faire pour Dieudonné et son public gogo ou innocent. En attendant, vous mangerez bien un petit gâteau palestinien offert pour la mort de Sharon. Que n'aurait-on dit si Israël, qui vous turlupine, aurait fait la même chose pour le criminel Arafat? Et par rapport à moi, pauvre petit Français, je n'ai pas les moyens de diffusion que vous avez, vous. Vous êtes quand même un privilégié du système. Au revoir, monsieur, là-bas, si j'y suis. C'était Paul de Toulon. Merci.
Bon, ben merci, Paul. Me voilà habillé pour le printemps, là. Merci, Paul. Et merci à tous pour ces messages. Le public de Dieudonné, on est en train de travailler là-dessus. Portrait du public de Dieudonné. Ben, c'est pas si facile que ça. C'est bien compliqué, cette histoire, parce que c'est un public très, très divers, très varié. Dieudonné compare son public à une boîte de crayons de couleur. C'est pas faux. Donc, ce sera demain ou plus tard. On est en train de travailler sur ce sujet et à cerner, essayer de cerner, enfin le mot est fort, mais disons, vous proposer des croquis qui tiennent à peu près debout sur ce fameux public. D'ailleurs, si vous en faites partie, n'hésitez pas, vous avez le répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est 01 56 40 37 37, qui tend les bras à vos bouches et à nos oreilles. Alors du coup, on va aller chez les pirates. On est toujours fasciné un peu, il faut bien dire, hein, faut bien reconnaître qu'on a un faible pour les faibles. Et puis, dès que ça se révolte, dès que ça conteste, dès que ça s'indigne, ça nous intéresse. Et tout ce qui va contre-courant, etc. Des fois, il y a des gens qui vont à contre-courant, qui sont pas très fréquentables, voire même pas fréquentables du tout. Et dit tout ça parce qu'on va aller voir les pirates, les corsaires et les pirates. On a tous des histoires, des mémoires, hein, d'histoires de gosses, d'histoires de pirates et de corsaires sur les mers. Utopie pirate. Est-ce qu'il peut y avoir une utopie pirate? Vous posez la question, on s'est posé la question, et vous allez entendre les réponses qu'on a trouver à ces questions que nous nous sommes posées avec Antoine Chao. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de la base, si j'y suis, bonjour à tous les auditeurs de France Inter. Tous les AMG, les habitants d'Aubagne et du Pays de l'Étoile, sont invités jeudi 16 janvier à 19h30. Le repère d'Aubagne recevra Éric Chabrière, professeur à l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, directeur de recherche à la faculté de médecine, pour débattre sur la recherche scientifique vue de l'intérieur. Les réunions du repère d'Aubagne se tiennent tous les troisièmes jeudis de chaque mois au restaurant Le Borsalino, 3 boulevard Jean Jaurès, à Aubagne. A très bientôt pour débattre, questionner, échanger, partager. Salut!
Bonjour à tous. Eh bien, encore un petit cadeau de nos amis socialistes. Voilà, ils ont rendu imposable la part patronale des mutuelles. Donc ça veut dire que nous allons encore payer plus d'impôts et gagner moins. Voilà, c'est le nouveau refrain. Eh bien, on va continuer à être sympa avec eux. Allez, au revoir, c'était Philippe Dugers.
Salut les AMG de Mélan et de la région de Grenoble pour notre deuxième repère. Demain, mercredi 15 janvier à 19h, dans le sympathique restaurant bio de Virginie, la balade des joyeux marmitons à Mélan, nous avons invité Olivier Valade, historien, co-rédacteur du livre Les Jours Heureux aux éditions La Découverte, sur le programme du Conseil National de la Résistance. L'association CRHA, citoyens d'hier et d'aujourd'hui, à l'initiative de ce livre, avait ajouté en sous-titre « Comment il a été écrit et mis en œuvre et comment Sarkozy accélère sa démolition ». Nous débattrons avec Olivier Valade de ce que nous avons fait de ce programme durant 70 ans. Philippe de Mélan.
Salut, c'est Daniel Mermet, avec Antoine Chao, c'est là-bas si j'y suis, Utopie Pirate.
Flight number 2, arriving from...
Un drapeau noir, une tête de mort, dans les reflets d'une flaque de sang. 6 et 3 font 9. 6 et 3 font 9. 6 et 3 font 9. Voilà le capitaine Flint avec sa jambe de bois sur le gaillard d'avant. 6 et 3 font 9. 6 et 3 font 9. Et un perroquet et 2 pistolets. Et une barbe qui pue le rhum et le hareng. Et à l'oreille, un anneau d'or. J'oublie la pipe, j'oublie la poudre, j'oublie les grosses filles des tavernes aux tétons si blancs et le coffre du mort, avec l'or et les diamants. Et la vieille montre espagnole qu'on enterre la nuit sous les cactus de l'île de la Tortue. Et tout ça, pour ça? Non, pas vraiment. Le trésor, on le retrouve jamais, car on est mort avant. On fera pas de vieux os sur terre, et encore moins sur mer. Et c'est tant mieux. Comme dit la chanson, mieux vaut un jour de lion qu'un siècle de mouton. Voilà, le pirate qui arrive. 6 et 3 font 9. 6 et 3 font 9. Ces hommes, depuis longtemps, éternels, révoltés, aventuriers sans scrupules, gueux, assoiffés de richesses, ou précurseurs, audacieux de sociétés égalitaires, ces pirates ont traversé les siècles sans cesser de fasciner et d'inspirer, bien sûr, d'inspirer d'abord les enfants et les anciens enfants. Les pirates nous replongent dans nos rêves adolescents de révolte et de rupture. Quand vous mordez la nuit, la main qui vous nourrit, et partez à l'aventure sous les couvertures sans avoir oublié d'écrire avant dans votre petit journal « L'ordre, c'est la vertu des médiocres ». C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. Utopie pirate.
Il y en a qui deviennent sergents ou marchands de peinture. Il y en a qui vendent des cure-dents ou des grosses voitures. Il y en a qui passent le week-end enfermés comme des patates. Mais moi, quand je serai grande, je serai pirate. Les pirates ne payent pas d'impôts et se font des tatouages sur les biscottos. Les pirates vivent au jour le jour, ça les empêche pas de se faire du velours. Les pirates ont des chapeaux noirs et versent le fric à plein arrosoir. Les pirates aiment la bagarre et règlent leurs comptes sur le coin d'un bar. Ils montent à Paris dans les boîtes de nuit, ramassent les pucelles pour rénover le cheptel. Payent les argousins pour protéger le turbin, font bosser les gonzesses et leur bottent les fesses. Les pirates sont tous d'Ajaccio et n'ont peur de rien, sinon du boulot. Les pirates qu'ont tout ramassé font de la politique et deviennent députés. Faut les pendre en haut du grand mât. Quel est le pirate qui refuserait ça?
Alors nous voilà en face du Musée National de la Marine à Paris, place du Trocadéro. 300 ans d'histoire maritime. Alors, la question, c'est celle du bon usage du sabre d'abordage. De vérifier donc la thèse d'un livre qui est sorti il y a quelque temps déjà aux éditions Aden et qui s'appelle « Bastion pirate, une histoire libertaire de la piraterie » qui présente les pirates comme des équipages composés des premiers rebelles prolétariens s'opposant au mercantilisme de la marine de l'époque qui ne faisait que participer au pillage du nouveau continent. Découvert un siècle plus tôt, en proposant la répartition des richesses, en quelque sorte. Dans cette période du premier essor du capitalisme.
Voilà, bonjour monsieur.
Bonjour madame. Je prépare un travail sur la piraterie, donc je voulais savoir si j'allais trouver de l'information ici. Il n'y a rien du tout sur les pirates? Il n'y a aucune documentation
non,
sur
la piraterie? Il y a eu une expo sur les pirates, mais il n'y a rien de, sur les pirates. Non.
D'accord.
Allez à l'information, on va vous dire en fait.
Merci. Bonjour. Alors, sur les pirates, vous auriez quoi?
Faut que je regarde ici.
Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de salle qui était dédiée à... Non, non, non. Est-ce que vous auriez ce livre, La Bastion Pirate?
C'est quelle édition, ça?
Aden.
Parce
que moi, ce qui m'intéresse, c'est le sous-titre, là. Une histoire libertaire de la piraterie. Vous pensez que les pirates étaient des libertaires ou c'était des brigands uniquement?
Les libertaires, ils étaient quand même assez indépendants, c'est sûr. Plus que les corsaires, c'est sûr. Les corsaires étaient totalement dépendants, mais les pirates étaient indépendants.
D'accord.
Donc, celui-ci, il n'a pas.
D'accord.
Est-ce qu'ils avaient une tendance libertaire? Peut-être pour certains, probablement. Notre position à la base, c'est de dire une chose très simple. Hein. Ici, on a toujours dépendu de l'administration royale, puis nationale, puis tout ce que vous voulez. Les pirates, c'est un petit peu quelque chose d'extérieur. Enfin, vous voyez, les pirates, c'est pas du tout... voilà. Donc, ici, on a des sources sur la marine française, sur les corsaires, parce qu'eux avaient des lettres de marque. Donc, ils faisaient partie du système. Les pirates, c'est hors système.
Eh oui, on a cru bien faire avec Antoine. On dit, bon, tiens, c'est intéressant. Et les pirates, quand même... Tout le monde sait qui sont les pirates. Les enfants, les vieux, les jeunes, tout le monde. On a tous un pirate dans la tête. Bon, ben pour faire une émission là-dessus, pour en savoir un peu plus, ben allons au musée de la marine, le magnifique musée de la marine. Oui, mais le musée de la marine dépend du ministère de la Défense. Et le ministère de la Défense, c'est se défendre justement contre les pirates. Même s'il y a plus beaucoup de pirates des mers dans nos eaux à nous, la différence est toujours marquée. Et ce sont bel et bien, aux yeux officiels, bel et bien des brigands. Et les valeurs libertaires... Non, c'est pas par ici qu'on va apprendre grand-chose. Quoique, essayons.
Deux jours plus tard, musée de la marine, porte de service, j'ai rendez-vous avec la conservatrice adjointe qui a été commissaire de l'exposition sur les pirates. Des histoires qui font l'histoire. Savez-vous comment l'obélisque de Louxor est arrivé place de la Concorde? Comment fabriquait-on un cordage ou installait-on un mât au XVIIIe siècle? Savez-vous que le bateau à vapeur et l'hélice sont des inventions françaises? Combien d'hommes travaillent sur le porte-avions Charles de Gaulle? Les réponses, venez les découvrir à travers plus de 1000 objets extraordinaires, maquettes de navires et de machines, souvenirs de marins, peintures, figures de pro, armes, instruments de navigation. Tous ces objets de collection ont une histoire. Bonjour. J'étais en train de regarder le programme. Alors je vois que vous répondez à plein de questions.
C'est parfait.
Hein? Donc voilà, donc je vais vous poser la mienne. Après. Non, justement, là, je vois pas. Tu vois qu'il n'y a pas la question qu'on se pose sur le bon usage du sabre d'abordage, quoi.
Dites cuillère à peau.
Eh
ben, oui, ça vient de là. Deux coups de cuillère à peau, c'est un terme qui vient de la marine, puisque la cuillère à peau en question, c'était le nom qu'on donnait au sabre d'abordage. Donc lorsqu'un abordage se faisait en deux coups de cuillère à peau, c'était en deux coups de sabre, donc extrêmement rapidement, et qu'il était mené à bien évidemment.
L'abordage fait partie de l'histoire de la marine.
Marine militaire, oui, bien sûr, et puis la piraterie, bien sûr aussi.
D'accord, mais pourtant, il n'y a aucune salle qui est destinée à la piraterie dans ce musée.
Alors, on avait fait une grosse exposition sur le sujet il y a une huitaine d'années maintenant, parce que justement, ça n'était pas un sujet qui était abordé dans nos collections. La présentation permanente des œuvres était plutôt basée sur des choses, je dirais, plus politiquement correctes, donc en particulier donc, l'évolution de la marine militaire, l'évolution de la marine marchande, voilà, des choses un petit peu plus nettes, avec des contours un petit peu plus précis que sont ceux de la piraterie.
D'accord.
C'est ces aspects-là qu'on a cherché à développer. Le musée de la marine, on dépend du ministère de la Défense. Donc il y a des explications à la présentation, peut-être, d'un certain nombre de choses et la façon dont c'est présenté ici. Donc, chez Annie Madévache, je suis conservateur adjoint au musée national de la marine, l'un des commissaires de l'exposition pirate qui s'était tenue au musée en 2002.
Alors, est-ce qu'on peut d'abord faire un petit lexique sur ce qu'étaient les corsaires et ce qu'étaient les pirates?
Alors, les corsaires...
Les flibustiers?
Ah oui, parce qu'il y a tout un... Il y a les boucaniers, il y a les flibustiers, il y a les pirates, les corsaires, et tout ça, ce sont des personnes qui ont des facettes différentes les unes des autres. Les corsaires, ce sont, je dirais, les plus droits, peut-être. Ce sont ceux qui ont, en tous les cas, une autorisation de la part du roi de s'attaquer pendant une période donnée à une nation particulière. Ils ont en leur possession ce qu'on appelle une lettre de marque, délivrée par l'État. Cette lettre de marque stipule précisément quelle est la nation qu'on a le droit d'attaquer et pendant un conflit, quel qu'il soit. Les pirates sont des gens sans foi ni loi, qui ne font vraiment que ce qui leur plaît et qui n'ont de compte à rendre à personne. La piraterie, c'est un phénomène qui a existé de tout temps, qui malheureusement existe encore, tandis que ce qu'on appelle vraiment les flibustiers, c'est un terme qui s'applique géographiquement et chronologiquement à un espace bien précis, c'est-à-dire, encore une fois, la zone de la mer des Antilles, vraiment courant 17e et jusqu'au milieu du 18e siècle. L'essentiel des équipages qui formaient les équipages pirates provenaient des marins en rupture de banc avec la marine britannique, et beaucoup pour la marine britannique, française un petit peu dans une moindre part, mais les conditions de vie à bord des navires de guerre britanniques étaient tellement dures que bien souvent ils préféraient essayer de s'en abstraire et donc de rejoindre les pirates et les forbans. Et les boucaniers, c'était le terme vient du boucan, le boucan étant le foyer sur lequel on faisait revenir boucaner la viande. Et donc, voilà, par extension, les gens qui effectuaient ce type de tâches étaient les boucaniers. Donc c'était plutôt le versant terrestre que le versant maritime des personnes qui vivaient à cette époque-là dans les îles.
Nous sommes des humains sans patrie. Des hors-la-loi dans notre pays et des indésirables partout ailleurs. De désespoir, il nous faut tenter notre fortune en mer. Nous nous unissons donc fraternellement pour devenir ensemble des flibustiers et accomplir des actes de piraterie en haute mer. Étant pourchassés, nous pourchasserons.
Libertalia, en fait, c'est une terre qui est soi-disant créée par des pirates au début du XVIIIe siècle. Et en fait, le récit vient d'un certain capitaine Johnson, dont l'identité a été révélée il y a assez peu de temps par les universitaires. Ça n'est autre que Monsieur Defoe, qui est à l'origine de Robinson Crusoe. En fait, il raconte une histoire qui s'avère être une sorte de conte politique et que, très certainement pour des raisons liées à la peu de liberté de presse qu'il y avait à l'époque, il va se situer dans un cadre pirate et dans l'océan Indien, donc, puisque ça se situerait donc à Madagascar, au nord de Madagascar. Malheureusement pour nous, je dirais aujourd'hui, il s'avère que c'est une utopie, c'est-à-dire que c'est vraiment un récit de fiction totale, ce qu'aurait pu être une vie un petit peu rêvée de pirates qui décident d'instaurer un gouvernement de type républicain. C'est assez précurseur, le bouquin est paru en 1724. Donc c'est très, très tôt par rapport à justement toutes ces utopies politiques.
Alors vous dites que c'est avéré que c'est une fiction ?
Oui, parce que justement, en fait, il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été faites sur place. Rien n'a été trouvé sur place pour montrer qu'il y ait eu, à un moment ou à un autre, une communauté qui se soit installée là. La tradition orale locale n'a absolument gardé aucune trace non plus de la présence potentielle d'un groupe qui se serait installé dans cette zone-là. Donc vraiment, a priori, c'est purement un conte politique qui est sorti de l'esprit de ce Britannique du XVIIIe.
Donc le mythe libertaire des pirates s'effondre, là, hein, aujourd'hui, au musée de la marine.
Je suis navrée.
Vous m'aviez laissé espérer, il y a deux jours, que c'était une réalité, que ça avait été une réalité.
Non, malheureusement, j'ai revu ma copie entre-temps, et non, ça n'est pas le cas.
Mais ça se base quand même sur des pratiques. Qu'est-ce qu'il y avait des pratiques comme ça de fraternité ou de coopération au sein des confréries pirates? Ça a existé ou pas? Ou ça fait partie aussi de la légende?
Alors, il y a des éléments malgré
partage
tout.
Partage du butin, etc.
Alors justement, il y a des règles qui sont établies, dont on a parfois la trace d'ailleurs dans des récits. On a quand même déjà une forme de répartition des richesses qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît dans la société classique terrestre de la même époque. De même qu'un certain nombre de règles ont été établies pour dédommager, si on perd une main, si on perd un bras, si on perd une jambe, si on perd les deux jambes, pour être dédommagé. C'est l'ensemble de notre sécurité sociale, hein. C'est clairement établi comme ça, en fonction de du problème physique rencontré, on est dédommagé sur une part de butin des autres.
Avez-vous envie de servir le roi? Vous entendez ça, les gars? Le roi voudrait qu'on fasse partie de sa flotte.
Attachez-le à la gueule d'un canon, j'enverrai ses tripes en graisse et les champs de canne à sucre.
Vous perdez votre temps, prenez-le.
Attendez.
Le pendre, ça serait trop noble pour lui. Vous nagez, colonel chéri? On va vous rafraîchir les idées en vous envoyant prendre un bain froid.
Allez, Oust, par-dessus bord!
Mais quand même, c'est un monde assez poreux, quoi, sur ce commerce du 16e, 17e siècle. On est en train de piller quand même le nouveau continent. La pratique pirate s'inscrit quand même dans un libéralisme là qui est en plein développement.
Vous allez peut-être un petit peu loin quand même, parce que ça n'en reste pas moins du pillage, hein, même si effectivement les cargaisons sont elles-mêmes pillées au préalable auprès des populations. Je pense qu'entre-temps, le Hollywood est passé par là. On a une version et une vision aujourd'hui qui est très brillante, un peu... comment dire, un peu... Enfin, c'est le versant aventureux, c'est le versant un peu Robin des Bois qu'on présente. Je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste valeur. Ce sont des gens qui ont simplement envie de prendre aux uns pour garder pour eux et pas du tout pour redistribuer derrière. Il y a un cas précis, c'est Edward Teach, par exemple, célèbre pirate en son temps, qui a carrément abandonné son équipage sur une île déserte pour s'approprier la totalité du butin. Donc, même la description très vertueuse que je faisais tout à l'heure de la répartition du butin, elle était même parfois battue en brèche par les pirates eux-mêmes. Donc, bon, encore une fois, oublions un petit peu les productions hollywoodiennes qui ont une façon de présenter les choses, qui s'explique d'ailleurs. Dans l'histoire américaine, les pirates ont été parfois des pourvoyeurs très intéressants pour les colonies américaines qui étaient déjà un petit peu en butte au commerce et aux règles très strictes que leur appliquaient les Britanniques avec des taxes extrêmement sévères. Et les colons américains étaient parfois ravis et ouvraient vraiment leur port aux pirates de façon à ce que ceux-ci viennent écouler leurs rapines à bas coût, contrairement à ce que les Américains auraient pu obtenir auprès des Britanniques, taxés. Donc je dirais qu'il y a une façon de la part des Américains de percevoir la piraterie, la flibuste du 18e, qui est sans doute pas la même que celle que l'on peut percevoir peut-être nous depuis la vieille Europe, parce qu'il y a ce rapport quand même, je dirais, d'intérêt commercial, qui est avéré, encore une fois, que nous n'avons peut-être pas perçu, nous, ici. Donc, on n'a peut-être pas ce penchant, peut-être, à voir les choses de façon un petit peu plus rose qu'elles ne l'étaient dans la réalité. C'était très rouge sang, quand même, hein, ce qui se passait à bord.
Salle d'un banque, le vent l'encre noir, les femmes et les enfants debout.
Larguez les amarres.
Marin des mers du Nord, j'timi Moussaillon. Une nouvelle page doit s'écrire, on met les voiles pour de bon. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international des pirates sera le genre humain. Gardons le cap coûte que coûte, même en pleine tempête. Bandit, contre l'ordre établi, relevant la tête.
À l'abordage pour foutre un bordel. À l'abordage pour mettre en crème sel. À l'abordage pour foutre un débord. À l'abordage pour péter le décor. En politique, les penseurs de leur mère va leur dire que le MAP est en guerre, va leur dire qu'on a capté leur petit manège, qu'on a assez de plastique pour faire sauter leurs privilèges. On peut se les faire si on reste bien groupir, bien soudé, on fera chuter leur empire. Ils ont les lois, les matraques et les tasers. On a la foi et de la rage dans les viscères.
Écumons les scènes, bougons de ville en ville, constituons notre armée de bras cassés, d'affreux, d'immondes. Sous l'œil de la lune rousse de toutes parts, les renforts arrivent. Repartons à l'assaut des navires des grands de ce monde. Ces vaisseaux assassins ce soir pour sûr connaîtront un triste sort sous l'assaut de nos sabres. Captain Radio Crochet monte le son, donne-nous du cœur à l'ouvrage. Pompe les bon oeil, on part à l'abordage.
Oui.
Eugène?
Oui.
C'est Antoine.
Ah, Antoine.
Tu vas bien?
On a ramate, comme on dit ici. Ça veut dire ça va bien.
Ouais, écoute, ça va bien, sauf que j'ai une très mauvaise nouvelle.
Ah bon ?
On me soutient que l'aventure, la belle aventure de Libertalia n'a pas eu lieu.
Non, moi je crois que ça a eu lieu, ouais. Je crois que ça a eu lieu, mais ça m'étonne pas qu'il y ait des détracteurs. Et, Et celui qui soutient ça te semble crédible, c'est quoi ?
C'est le musée de la Marine qui dépend de la Défense nationale.
Ah, bah évidemment, tu penses bien que les libertaires, ça les intéresse pas du tout.
Ah ouais, tu crois que c'est ça ?
Oh bah, bien sûr, parce que c'est quand même... Il y a les noms, il y a le nom du jésuite qui était avec lui, il y a le nom du mec, il y a... c'est très connu, le nom de ces bateaux, les prises qu'ils ont réalisées, ces gens-là. Enfin bon, ou alors on s'est tous fait berner, quoi. Hein. Mais moi, je crois pas quand même, hein. Je crois que c'est une belle histoire, quoi.
Ça t'étonne pas, toi, que ce soit comme ça...
Ah mais ça, moi, ça m'étonne pas du tout.
Une option
parce que...
possible pour les hommes de la mer, quoi.
Voilà, parce que c'est dans la mentalité des marins. Les marins, ils sont quand même des gens libres et un peu égalitaires, quand même. Tu vois, c'est quand même une population un peu particulière, quoi. Bon, Antoine, en tous les cas, rassure-toi du point de vue de l'existence, parce que Lucien Gouron, lui, il a réussi, mais il y a un document dont il m'a parlé l'autre jour, mais c'est incroyable, parce qu'il m'a parlé de ça, ou c'est moi qui l'ai branché là-dessus, et il est vraiment très documenté, quoi.
Ah, je l'appelle de ce pas, alors.
Oui.
Super.
Et tu lui dis salut de ma part.
Très bien.
Kenavo.
À bientôt, Gene. Kenavo.
Avant de prendre le large, nous allons remercier les Espagnols. Tenez-vous prêts, les enfants, le moment est venu de leur adresser notre message d'adieu. Attends, à tes canons.
Oui, patron.
Dégagez le pont pour la manœuvre.
Dégagez le pont pour la manœuvre.
Dégagez le pont pour la manœuvre.
Oui.
Oui, Lucien Gouron.
Oui.
Je vous appelle de la part de Jeanne Riguidel, qui m'a conseillé de vous appeler parce que vous vous intéressez aussi à l'aventure des pirates dans l'océan Indien, notamment à Libertalia. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là ?
Bah, c'est par le plus grand des hasards, dans la passion que j'ai pour les histoires autour de la Bretagne et des marins, j'avais découvert l'histoire d'un pirate qui s'appelait Condon, ou Condon, écrit d'une autre façon, qui avait vécu à Port-Louis, et qui était marié avec quelqu'un qui était un collatéral d'un de mes ascendants dans le pays de Port-Louis et d'Île de Groix. Donc je suis parti à la recherche de cet homme dans l'océan Indien. Je suis arrivé aux Seychelles et j'ai été aux archives où j'ai rencontré deux personnes qui collectaient les contes aux îles Seychelles. Et là, tout de suite, ils m'ont fait découvrir plein d'histoires de contes et de légendes autour de trésors de pirates extraordinaires. Le fameux trésor de la Buse. Or, en m'intéressant à l'histoire de la Buse, Olivier Levasseur, qui avait été aussi pirate dans les Caraïbes, eh ben, je suis tombé sur l'affaire de Libertalia, c'est-à-dire cette république socialiste, alors utopique, dont on ne sait pas si elle a vraiment existé ou elle est seulement l'œuvre enflammé de Daniel Defoe, puisqu'il écrit une histoire de la piraterie, mais qui est passionnante parce qu'il symbolisait, enfin, pour moi, tous des rêves qu'on peut avoir étant enfant à l'île de Groix, par exemple, où toute mon enfance à l'île de Groix a été bercée par des histoires de pirates, quoi. J'ai découvert aux archives des Seychelles le fameux cryptogramme lancé donc par ce fameux Labuse, c'était son surnom, dit Olivier Levasseur, qui, lorsqu'il a été exécuté à l'île Bourbon, devenue aujourd'hui l'île de la Réunion, il lance ce parchemin et il dit « Mon trésor aura, à qui découvrira ?» quoi. Et depuis, ben, on cherche toujours à essayer de décrypter ça, parce que on pense que ce trésor, qui avait sans doute séjourné à Madagascar, à Libertalia, avec Lisson, avec tous ces pirates anglo-saxons, français. Et moi, quand j'ai découvert l'histoire, j'étais persuadé que ça avait vraiment existé. Et en même temps aussi, ça satisfaisait chez moi ce besoin, effectivement, de renouer avec ce côté anarchiste que j'avais quand j'avais 18-20 ans. Voilà. Aujourd'hui, quand on me dit c'est une fable, je préfère ne pas le croire, quoi. Dans mon esprit, pour moi, ça existait, quoi. Libertalia, c'est pas seulement qu'une utopie.
Parce qu'au-delà de Libertalia, des historiens se sont penchés sur l'histoire de la piraterie, hein, notamment Marcus Rediker, aux États-Unis, un chercheur, et il s'avère effectivement qu'il faut un peu réévaluer l'histoire de la piraterie avec un focus plus social et plus libertaire, effectivement aussi.
On ne bâtit pas une utopie, à mon avis, comme celle-là, sans qu'il y ait effectivement dessous un terreau propice, j'entends, le mouvement de la piraterie en général, quoi. Moi, j'en suis persuadé, oui.
D'accord. Merci, Lucien. À bientôt.
À bientôt.
Alors, utopie ou vérité ou véritable utopie, l'histoire de Libertalia. Mais comme dit Antoine Chao et nos amis, n'y a pas que cette histoire de Libertalia. Il y a la façon dont vivent ces pirates. On parle quand même essentiellement de l'âge d'or, hein, de la piraterie, cette piraterie de Stevenson, de Daniel Defoe, c'est-à-dire le début du 18e. Il y a une chose, hein, l'image, le marin est un homme libre, évidemment, il est là tout seul, au milieu des horizons, sauf qu'il est dans un bateau. Il est dans un bateau, il n'y a rien de plus enfermant qu'un bateau. On est prisonnier dans un bateau. Et quand on est des pirates, eh ben, on est tous prisonniers du bateau à l'intérieur. Il va falloir s'organiser. Il va falloir organiser la vie. Et comment on va l'organiser, la vie ? Eh bien, c'est tendu. Les hommes sont là. C'est pas des enfants de cœur, ces marins-là. Donc, il va falloir trouver des relations. Qui va être le chef ? Qui va commander ? Et il y a des impératifs de discipline très stricts à bord d'un bateau. Donc, il y a communauté. Donc, c'est peut-être à partir de là qu'on peut imaginer qu'il y a eu une fois à terre, une fois le butin acquis. Comment va-t-on le partager ? Très souvent, ce sont des butins acquis sur des gens qui eux-mêmes sont des voleurs. Hein, ont piqué ça aux Amérindiens dans des conditions épouvantables. Donc, c'est des pirates qui volent d'autres pirates, en fait. Mais est-ce qu'il y a eu ou non la utopie ? Est-ce qu'il y a eu là des bandits sociaux ? Est-ce qu'il y a eu utopie ? Est-ce qu'il y a eu là les premiers rebelles prolétariens qui sont apparus ? On retrouve les éditeurs du livre de Marcus Rediker, Pirate de tous les pays. Marcus Rediker, on vient de le dire, étant un chercheur américain qui passe sa vie sur ces histoires de pirates et leur histoire comme ancêtre, on peut dire, des rébellions socialistes.
Nicolas Norito, je m'occupe des éditions Libertalia depuis quelques années. Je suis militant anarcho-syndicaliste, également prof à Romainville dans un lycée professionnel. Alors Marcus Rediker, c'est un historien américain qui a 55 ans à peu près, qui a été le disciple de Christopher Hill, grand historien marxiste britannique, qui est le premier à s'être intéressé réellement aux pirates en tant qu'homme d'en bas, et non pas comme bandit. D'abord, Rediker s'intéresse à ce qu'il appelle l'histoire d'en bas. Donc l'histoire, elle est faite non pas par les puissants, mais par le peuple. C'est une remise en question absolue de la façon d'aborder les phénomènes historiques. C'est donc une révolution, ce qui s'inscrit dans la fameuse nouvelle histoire. Donc Rediker, élève de Christopher Hill, se dit « il faut que je m'intéresse à cette question ». Et il va passer 30 ans de sa vie, ça fait 30 ans qu'il travaille sur le monde de la mer. Et il va démontrer l'aspect absolument subversif des pirates, qui sont les meilleurs des marins, qui ont décidé de s'émanciper, de refuser le jeu capitaliste, d'économie mondialisée, pour vivre leur vie, tout en libérant leurs frères humains, à savoir les esclaves qui étaient emmenés de l'Afrique pour participer à la construction de l'économie capitaliste et productiviste. Sure, you've come to the proper place.
Vous êtes la conscience du mal, vaurien. Soyez maudits. Moi, capitaine Bellamy, je suis un prince libre, mais j'ai autant d'autorité pour faire la guerre au monde entier que celui qui a une flotte de 100 navires sur mer, une armée de 100 000 hommes sur terre. Voilà ce que me dit ma conscience. Mais que l'on peut discuter avec des morveux pleurnicheurs qui permettent à des supérieurs de leur botter le train à volonté d'un bout à l'autre du pont.
Alors le marin, c'est quoi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une attirance romantique pour le monde de la mer ? Non, absolument pas. Ce que nous ont décrit Melville ou Stevenson dans leur roman, c'est de la littérature. Lui, Rediker, va s'intéresser à l'homme, le paysan qui est obligé de quitter ses terres puisqu'il y a une politique de remembrement en Angleterre à la fin du XVIIe siècle et qui est obligé de prendre la mer, qui va travailler dans des conditions terribles pour un salaire de misère. Donc il s'intéresse aux marins. Combien y avait-il de marins au XVIIe siècle ? En quoi ont-ils participé à la grandeur de l'empire colonial britannique et donc à la naissance du capitalisme ? Et quelles ont été leurs formes de résistance ? Donc voilà, on a quelque chose comme 80 équipages pirates qui constituent au total plusieurs milliers d'hommes qui vont arraisonner 400 navires marchands appartenant aux Français, aux Espagnols, aux Britanniques. Et pas n'importe quel navire, les navires qui revenaient de l'Eldorado, de l'Amérique du Sud, des navires chargés d'or ou de sucre.
Pour en revenir à Libertalia,
que dit Marcus Rediker sur l'existence ou pas de Libertalia ?
Libertalia, c'est supposé être une république égalitaire et libertaire pirate située au large de Madagascar à la fin du XVIIe siècle. Bon, on n'a pas retrouvé la moindre trace de ça. Donc là, on est dans le roman, ce qui pourrait accréditer la thèse d'un Daniel Defoe, auteur de ces chapitres-là.
Fred Alpi, vous êtes le traducteur des deux bouquins.
Effectivement, Libertalia, dans l'imaginaire libertaire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des modèles, même utopiques, et d'essayer de voir comment un fonctionnement collectif peut tendre vers ces modèles. Alors que Libertalia, finalement, existait ou pas, l'idée d'une communauté de vie égalitaire, libertaire, des fonctionnements non hiérarchiques, pas de différence de salaire ou très peu entre l'équipage et le capitaine, un capitaine élu, révocable à tout instant, mandaté, les décisions prises par des assemblées générales souveraines, voilà, c'est ça qui est important. Chez les pirates, par exemple, il y a eu les premières formes de sécurité sociale. Hein, alors que bon, les marins blessés ou handicapés, amputés dans la marine marchande où ils étaient abandonnés à leur sort, les pirates, eux, constituaient des caisses de sécurité sociale avec des indemnités en fonction des blessures pour permettre une réelle solidarité. La nourriture était partagée équitablement. Enfin, c'était un vrai fonctionnement. Enfin, il n'y avait pas un fonctionnement uniforme. Mais en tout cas, il y avait toutes ces choses-là ont existé et finalement ont été les premières formes d'organisation libertaire concrète. Il faut savoir que le terme strike, grève en anglais, vient du fait de déchirer les voiles, de fendre les voiles des bateaux pour les empêcher de naviguer. Et c'était les premières formes de grève et d'action directe destinées à immobiliser le bateau, qui est pratiquement la première forme d'usine, avec des gens qui viennent, qui n'ont que leur force de travail à apporter là, qui est un lieu de conflit social permanent.
Et récupération des moyens de production, quoi.
Et récupération des moyens de production, tout simplement, lutte des classes sur le bateau ou contre les armateurs. C'est-à-dire que bon, le pirate, c'est un stade ultime d'une rébellion. Mais déjà, le marin révolté, c'est lui qui va pratiquement être à la base de la naissance des premiers mouvements ouvriers.
Début 18e siècle, 100 ans avant les révolutions françaises. Les principes du libéralisme étaient déjà mis en pratique par des communes ou des pirates. L'une d'elles, celle du capitaine Mission, faillit créer un précédent que d'autres auraient pu suivre. L'humanité aurait pu se libérer de l'impasse mortelle dans laquelle elle s'est enfermée. Mer des Caraïbes, début de l'histoire. Un navire de guerre français surnommé La Victoire. Une bataille fait rage, le capitaine est tué. Dès lors tout l'équipage, à l'unanimité, prend mission pour capitaine. Un pavillon fut hissé, non pas noir, mais blanc. Travail du mot liberté, la république des mers venait d'être lancée.
Pirate, sans race, sans scrupule, tu pilles et t'encules.
Années plus tard, après de nombreuses victoires, Mission s'établit sur la côte de Madagascar. Une base terrestre, libre colonie, la Libertatie. Et 300 hommes, des pirates français, anglais, des marins renégats, des esclaves libérés sur l'île rouge. Ils ont conçu des lois de paix et de démocratie, la haine capitale et l'esclavage de proscrit. Une totale liberté d'opinion religieuse était garantie.
Je m'appelle Samuel Sanchez, je suis historien à l'université Paris 7 Diderot. Et je travaille sur les sociétés de l'océan Indien occidental en particulier, à l'époque moderne et contemporaine.
Alors la question se pose de savoir si Libertalia a existé, vraiment. Donc il y a pu y avoir comme ça une geste libertaire chez les pirates à cette époque-là?
Oui, alors il faut distinguer plusieurs choses. D'une part, dans le comportement général de nombreux pirates, on a un désir de revanche un peu sociale, de s'affranchir des règles très dures de la marine de cette époque-là. Et on a des textes qui attestent un petit peu de ça dans des prises de bateaux, une sorte de dispute entre le capitaine du navire marchand et le capitaine pirate, qui s'appelle le capitaine Bellamy. Voilà, alors Defoe, tome 2.
Ça, c'est le fameux Daniel Defoe.
Voilà.
Histoire générale des plus fameux pirates, avec un Y.
Voilà. Pirates. Ça fait plus authentique.
Soyez maudits ! Vous n'êtes qu'un sournois godelureau, un lâche, de même que tous ceux qui s'abaissent à être gouvernés par les lois que les riches ont rédigées pour leur propre sécurité. Car ces couards n'ont aucun courage, sinon celui de défendre ce qu'ils ont obtenu par leur piloterie. Mais soyez maudits, et que je sois maudit de cette bande de vauriens rusés, et vous aussi qui les servez, d'être qu'un ramassis de stupides poules mouillées.
Ah, ils nous calomnient, les fripouilles, alors qu'il n'y a qu'une différence entre eux et nous. Ils volent le pauvre sous couvert de la loi, en vérité, et nous pillons le riche sous la protection de notre seul courage. Ne feriez-vous pas mieux de devenir l'un des nôtres, plutôt que de lécher le cul de ces vilains pour avoir un travail?
Voilà le genre d'expression qui, pour moi, manifeste un certain goût de la liberté et un refus de l'autorité telle qu'elle s'exprimait dans la marine de l'époque, en fait. Et par ailleurs, on a une expérience assez unique, qui est ce qui est connu sous le nom de Libertalia, en fait, une expérience dont on n'est pas tout à fait sûr, mais qui aurait eu lieu dans le nord de Madagascar, donc à la fin du XVIIe siècle, fondée par deux pirates, un gentilhomme provençal et un moine dominicain napolitain, donc Misson et Caraccioli, qui étaient deux capitaines pirates qui auraient fondé cette petite république, une société sans esclavage, une société égalitaire, qui essayait d'entretenir des relations cordiales avec les voisins malgaches. Et donc voilà, on a cette expérience-là qui est mise en avant, disons, comme une expérience libertaire véritable. Et si elle a vraiment existé, c'est probable qu'elle ait existé. Et sans doute, dans ce cas, c'est vraiment une expérience républicaine avec des fondements ancrés dans une idéologie un peu des Lumières, en quelque sorte. On n'a pas d'archives véritables là-dessus. Et la seule source dont on dispose, c'est celle de Defoe, enfin de Defoe, du capitaine Johnson. Alors peut-être qu'un jour on retrouvera des documents qui pourront attester véritablement de l'existence de ce lieu. Après, l'objet lui-même, il existe en tant qu'élément de la mémoire maritime, de la mémoire libertaire aussi, qui s'empare de cet objet historique, pourrait-on dire, pour créer une mythologie en quelque sorte. Donc là, on se situe plus dans l'histoire, mais dans une mémoire des mouvements de libération en quelque sorte. Mais qui est, à mon avis, distincte de la majorité de la piraterie. Voilà, c'est ce que je dirais là-dessus.
Sournois, godelureau. C'est beau ça, sournois. Golduro, merci à tous. C'était Utopie Pirate, nouvelle diffusion d'un reportage d'Antoine Chao. Pour en savoir plus, le bouquin Pirate de tous les pays de Marcus Rediker, je vous le rappelle, est aux éditions Libertalia. À lire aussi Bastion Pirate, petite histoire libertaire de la piraterie, un livre du collectif Do or Die. C'est aux éditions Aden. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a aussi, je vous le rappelle, la page Facebook de l'émission où vous pouvez vous exprimer. À la technique aujourd'hui, David Federman et Florent Layani. L'émission a été réalisée par Colin Guyen, Franck Adhérer et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Dion et Stéphanie Fromentin. Attends vos messages sur le répondeur de la boîte si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la boîte si j'y suis. Tout de suite, on retrouve Hervé Bochon avec son temps de Bochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
On peut savoir combien gagne un professeur au Collège de France ?
Comme un professeur, pas au Collège de France.
C'est pareil. Vous dépendez de l'éducation nationale aussi ?
On dépend de l'éducation nationale et de la recherche, mais c'est les mêmes salaires. Oui.
Alors, tout à l'heure, il va y avoir une leçon inaugurale, oui. Donc. Comment vous vous préparez à votre leçon inaugurale ?
Alors ça, je pense que c'est complètement personnel. Moi, personnellement, je la rumine pendant plusieurs mois. J'essaie d'avoir pas mal de matériaux, puis ensuite d'enlever beaucoup. Il en reste toujours trop à la fin, ça dure une heure précise. Il faut parler en même temps à des gens qui ne connaissent pas du tout le sujet, des gens qui ne sont pas du tout du domaine, des gens qui sont complètement du domaine, des gens qui sont d'autres domaines connexes. Alors il y a plusieurs façons de faire. Des fois, les gens lisent leur leçon qui est leur texte. Moi, pas du tout. J'ai un texte et j'ai des transparents complètement différents, avec des formes d'animation qui essayent toujours de réduire l'énergie que dépense l'auditeur à comprendre. Parce que pendant une heure, c'est comme dans un film, il ne faut pas du tout que l'auditeur s'ennuie, il ne faut pas du tout qu'il lâche. Donc il faut gérer comme un musicien, il faut gérer comme dans une pièce de théâtre, il faut gérer l'attention de ceux qui sont là, pour qu'ils soient toujours là. Pour moi, l'enseignement, on ne peut rien apprendre si on n'aime pas ce qu'on écoute. Donc j'essaie de comprendre comment faire que les gens aiment autant que possible du début à la fin, ce qui n'est jamais vraiment possible, mais j'essaie de leur construire des points d'interrogation, de leur construire des points d'exclamation sur la tête.
Bon, ben bonjour à tous et bienvenue au Collège de France en compagnie d'un professeur, Gérard Berry, spécialiste en informatique.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Pour moi, l'enseignement de l'informatique, qu'est-ce que c'est ? C'est comment brancher un ordinateur et comment...
Non, absolument pas, non. Ça, justement, il y a une énorme confusion en France où on pense que l'enseignement de l'informatique, c'est comment brancher un ordinateur. Non, l'enseignement de l'informatique, c'est comment comprendre, fabriquer les choses, comment comprendre comment elles marchent, quels sont les principes qui sont derrière. Et en France, c'est quelque chose qui est encore un peu au point mort. Les choses bougent, les gens se rendent compte. Et par exemple, le président Obama a fait un discours qui est télévisé, qui est diffusé à grande échelle, dans lequel il dit « Arrêtez de jouer aux vidéos, fabriquez-en, apprenez la science et la technique qu'il faut, lancez-vous, fabriquez-en, c'est pas le même boulot que d'y jouer, passez de consommateur à créateur. » Et ça, c'est de la science, et ça, c'est de la technique, et ça, c'est du boulot. Et c'est ça qui fera la différence dans l'avenir. Parce qu'on se pose en position de consommateur de tout ce qui est conçu ailleurs, et ça, pour l'avenir, c'est pas vraiment sain.
Je reconnais que, vous voyez, dans la main, j'ai un agra numérique.
Ouais, ouais.
J'ai commencé, j'avais un agra à bande.
Merveilleux.
Oui.
Sauf que ça, c'est bien mieux.
Bah, sauf que ça, c'est plus léger, ça me fait moins mal au dos.
Et il n'y a pas de bruit.
Il n'y a pas de bruit. Et surtout, je ne suis pas là à me dire, mince, il faut que je change de bande, ça fait 20 minutes qu'on parle, voilà, il faut que je change de bande. Alors que là, j'ai des heures.
Ce n'est pas un objet simple. Hein. Je pourrais peut-être le faire en cours un jour, mais il y a eu des séminaires. Qu'est-ce que c'est qu'un appareil photo numérique ? Qu'est-ce que c'est qu'un enregistreur numérique ? Leçon de choses. Ce que je faisais, c'était des leçons de choses, comme on faisait quand j'étais petit, pour expliquer c'est quoi ce monde numérique, il est fait de quoi. Je pense que c'est complètement dramatique que les gens ne se posent pas cette question, parce que c'est le monde de demain, et on est en train d'expliquer aux enfants qu'ils ne vont rien comprendre au monde de demain, qu'ils ne vont faire que l'acheter. C'est pas bien.
Mais je reconnais, je donne pas l'exemple, parce que moi, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne et pourquoi on arrive à faire autant de choses avec un truc si petit.
Regardez mes cours, ça parle de ça. C'est sur le web.
D'accord, j'ai noté, Gérard Berry, je vais trouver. En tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Je peux vous poser une petite question ?
Oui, bien sûr.
Tout est gratuit sur Internet ?
Tous les cours.
Ça existe depuis combien de temps ?
1530. Mais les cours Internet, non, évidemment.
J'imagine.
Bien évidemment.
Dans l'année, en moyenne, il y a combien d'auditeurs qui y viennent ?
160 000.
160 000.
Voilà. 160 000 auditeurs et nous avons en téléchargement 19 millions d'heures de cours téléchargés par an.
Et il y a à peu près 52 professeurs, c'est ça ?
Le Collège de France compte 52 chaires, mais elles ne sont pas toutes pourvues toutes les années. Donc on est plutôt sur une moyenne de 45-46 chaires pourvues chaque année. Puisque lorsque le professeur part à la retraite, la chaire disparaît avec lui. Donc on doit nommer, créer une nouvelle chaire. Donc ça veut dire définir le thème. Et ensuite, la discipline scientifique, évidemment, qui doit être portée. Et ensuite, trouver le meilleur titulaire possible pour
la
tenir.
Discipline scientifique, c'est pas obligatoirement scientifique. Il me semble que j'avais lu il y a quelques années qu'on avait proposé une chaire à Ariane Nouchkine et qu'elle avait refusé.
Oui, elle l'avait acceptée dans un premier temps et ensuite, après la parution au journal officiel, elle a refusé de venir.
Parce qu'elle ne voulait pas cautionner Nicolas Sarkozy qui était président de la République.
Parce que la nomination, comme toutes les nominations, sont signées par le président de la République, quel qu'il soit d'ailleurs. Ah oui. Et il se trouve que là, c'était M. Sarkozy qui était président de la République.
Mais il faut qu'il donne son accord aussi. C'est une manière de donner son accord. Il peut refuser qu'on nomme un professeur ou...
Non, jamais. Enfin, moi, depuis que je suis là, j'ai jamais... Non, en fait, les professeurs sont vraiment seuls juges de,
mais
alors, de la nomination.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait reproposer à Ariane Nouchkine sa chaire, où les professeurs sont vexés au Collège de France et disent
oui,
ah ben non.
Non, je pense que oui.
C'est fini.
Je pense que c'est fini.
Oui. Tout aurait passé.
De toute façon, c'était sur une chaire, la chaire de création artistique, qu'elle avait été cautionnée, et c'était pour une année de toute façon.
Oui.
Donc voilà. Donc je pense pas qu'on lui redemande de venir après s'être désisté au dernier moment.
Et je parle votre prénom.
Sophie.
Qu'est-ce que vous faites?
Alors, je suis responsable des enseignements et de l'organisation des manifestations au collège. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent à partir du 16 janvier Les Fausses Confidences de Marivaux au Théâtre de l'Odéon, dans une mise en scène de Luc Bondy avec Isabelle Huppert, Yves Jacques, Louis Garrel. Dorante aime la riche Araminte. Cette passion resterait sans espoir si Dubois, son rusé valet, n'avait décidé de lui faire épouser l'inaccessible bien-aimée. Mots choisis, mensonges et confidences feront-ils pencher la balance du cœur? Retrouvez Les Fausses Confidences dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Ce soir, question sur l'Europe. Stéphane Leneuf.
Après Gerhard Schröder, Tony Blair, Angela Merkel, David Cameron, voici François Hollande converti aux vertus du social-libéralisme. L'Europe version social-libérale est-elle une fatalité? Est-ce la seule solution pour sortir de la crise? Vos questions au 01 45 24 7000 à partir de 18h ou toute la journée sur franceinter.fr.
Questions sur l'Europe, ce soir sur France Inter à 19h20. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, c'est avec Laetitia Gaillet.
Les 600 journalistes français et étrangers sont déjà là à l'Élysée. Dans une demi-heure, donc, François Hollande prendra place face à eux. Le chef de l'État va tenir la troisième conférence de presse de son mandat. Et suite aux révélations sur sa vie privée, ce ne sera pas la chose la plus facile. D'après ses proches, quand la question sera posée, François Hollande devrait répondre qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Il ne faut pas confondre vie privée et exercice de la vie publique, a d'ailleurs dit cet après-midi Jean-Marc Ayrault, qui a été interpellé lors des questions d'actualité à l'Assemblée. François Hollande, dit-il, n'a qu'une priorité, l'avenir de la France. Et justement, à ce propos, lors de sa conférence de presse, le chef de l'État devrait fixer le cap économique et social de l'année 2014 et expliquer notamment le pacte de responsabilité qu'il entend soumettre aux entreprises. Moins de charges d'un côté et des embauches de l'autre. 11 personnes ont été interpellées aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône et en région parisienne dans une affaire d'extorsion de fonds en bande organisée de blanchiment d'argent. Parmi elles figure Franck Barresi, fiché au grand banditisme. 1500 euros d'amende pour Bertrand Tavernier. Le réalisateur a été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris. Une amende pour outrage au juge Burgot. Dans l'émission C'est à vous sur France 5 le 10 avril dernier, Bertrand Tavernier avait déclaré à propos de l'affaire Doutreau dont il a tiré un film. Quand vous voyez le film, je ne suis pas pour la peine de mort, mais c'est quelqu'un que vous avez envie d'exécuter, le juge Burgot. Elle avait été fermée en octobre après la mort d'un nouveau-né. La maternité de Dourdan dans l'Essonne est autorisée à rouvrir. Elle a le droit de pratiquer à nouveau des accouchements. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France a donné son feu vert aujourd'hui. Éliane Houlette, futur premier procureur financier. Christiane Taubira, la ministre de la Justice, a proposé aujourd'hui son nom au Conseil supérieur de la magistrature. Le CSM doit encore étudier le dossier et rendre son avis à la garde des Sceaux qui s'est engagée à le suivre après systématiquement. 150 emplois seront supprimés cette année chez Delphi en France. L'équipementier automobile américain a présenté aujourd'hui un plan de réorganisation industrielle au personnel. Il justifie ces suppressions d'emplois par la baisse des commandes des constructeurs français et européens. Les sites touchés seront ceux de Blois et de Périgny, près de La Rochelle. Enfin, les soldes d'hiver ont mal démarré en France. D'après la Fédération des enseignes de l'habillement, après 5 jours seulement, les ventes sont en forte baisse par rapport à l'an dernier, entre 5 et 10% de moins chez Zara ou H&M, par exemple. Et puis à propos de la vie privée dont on parlait tout à l'heure, eh bien cette enquête d'Opinium publiée aujourd'hui par Google, un tiers des salariés pensent que leurs collègues de bureau en disent trop. L'étude a été menée du 28 novembre au 2 décembre dernier, bien avant les révélations de Closer. Vous écoutez France Inter, il est 16h03 et tout de suite c'est avec vous
vous, Frédéric Clodéon, qu'on a rendez-vous. Bonjour.
Bonjour Laetitia Gaillère, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous, la folle journée approche, ce sera à la fin du mois, et donc à Nantes et alentour, on entendra beaucoup de musique venue d'Amérique. Le beau titre de cette 20e édition est « Des canyons aux étoiles », titre emprunté à Olivier Messiaen, et un coffret vient d'être publié chez Erato à cette occasion, et il s'appelle « La folie américaine ». Folie, inspiration, des airs populaires, du jazz, tout ça est mêlé dans le concerto en fa de George Gershwin, une vraie réussite, même si certains spécialistes ont un peu fait la moue au début, aucun pianiste ne l'ignore aujourd'hui. Voici un extrait du final de ce concerto, Allegro Agitato. Allegro agitato, la conclusion du concerto en fa de George Gershwin, agité comme la ville de New York elle-même, où a été créée cette œuvre en 1925. C'était d'ailleurs au fameux Carnegie Hall de New York. Et là, on a entendu une belle version dirigée par David Zinman avec l'Orchestre symphonique de Baltimore et en soliste Hélène Grimaud. Quelques années après, George Gershwin publie Un Américain à Paris. Il dit lui-même, d'ailleurs, mon propos est de présenter les impressions d'un Américain visitant Paris, tandis qu'il se promène dans la ville, prête attention au bruit des rues, rues et s'imprègne de l'ambiance parisienne. Je n'ai nullement tenté d'évoquer des scènes déterminées. Ouais, quand même, un certain Dean Stellor, d'ailleurs, a confectionné un argument pour la première de l'œuvre et finalement, Gershwin ne l'a pas renié. Donc, il y a des thèmes de promenade, le narrateur se balade en touriste accompli, il descend les Champs-Élysées, il y a quelques péripéties, il va à la terrasse d'un café du quartier latin, des querelles de taxi, déjà d'ailleurs on peut dire, pour lesquelles Gershwin a exigé de vraies trompes d'automobile, et puis il y a une rengaine populaire, il y a du trombone, il y a du jazz, enfin bon, c'est Paris, l'Amérique unie à travers cette œuvre absolument géniale. Voici la conclusion d'un Américain à Paris.